en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le CO2 peut-il être stocké sous terre en lieu sûr ? Après une première partie consacrée à la capture du gaz carbonique dans l'atmosphère, retransmission que nous vous invitons à télécharger sur notre site canalacademy.com, nous vous proposons d'écouter cette fois-ci le second volet sur 3 consacré à la séquestration du CO2, thème de la séance du 19 mai 2009 à l'Académie des sciences, séance organisée par Claude Allègre et Vincent Courtier. Dans cette deuxième partie, écoutez dans l'ordre les interventions des géophysiciens Laurent James de l'Institut Schlumberger Carbon Service. Son intervention porte sur la surveillance des réservoirs de stockage. Christian Fouillac est directeur de recherche au BRGM. Il nous parlera pour sa part de la sécurité des stockages. Et puis Nicolas Aymar est chercheur en géophysique pour la société Total. Il développera l'exemple du site de Lac dans les Pyrénées-Atlantiques. Tout de suite, Laurent James.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vais vous faire cette présentation sur l'observation et la surveillance des réservoirs. En fait, ce que je vais appeler de façon plus large le plan de monitoring d'un projet de stockage. Donc, je vais discuter rapidement de la place des mesures dans ce plan de monitoring et je vais essayer d'articuler, en distinguant différents objectifs de contrôle, l'aspect réglementaire et les technologies qui peuvent être mises en œuvre. Et je terminerai par quelques remarques conclusives. Pour démarrer l'exposé, je voudrais préciser comment nous concevons la vie d'un projet de stockage. En gros, nous avons trois phases différentes. Une phase préopérationnelle qui est vraiment une phase de caractérisation amont, de sélection de sites, caractérisation amont et design du système d'injecteurs et de monitoring qui vise à constituer un dossier suffisamment solide avec une analyse des risques pour obtenir un permis d'injecter. Ensuite, on passe en phase opérationnelle et la phase opérationnelle va durer de l'ordre de 50 années, qui est la durée de vie d'une centrale à charbon à peu près. Elle consiste à construire le site proprement dit, donc forer les puits, les compléter, installer évidemment toutes les installations de surface et on démarre à proprement dit la phase d'injection de CO2. Pendant cette phase d'injection commencent les activités de monitoring, donc de contrôle et de surveillance, un tout petit peu avant l'injection elle-même, en fait même un an avant l'injection elle-même en général pour ce qui est du contrôle de la surface, simplement parce qu'il faut enregistrer ce que l'on appelle un état zéro ou une ligne de base. Et ces activités de monitoring vont s'étendre jusqu'en phase post-opérationnelle qui, contrairement aux opérations pétrolières, peut être très longue puisqu'il va s'agir de fermer le site et ensuite d'installer un système de surveillance sur le long terme. Donc je vais essentiellement décrire dans cet exposé les activités de monitoring. Ce que je voulais préciser, c'est que toute cette gestion du stockage se fait avec une méthodologie tout à fait précise, en fait, de gestion de la performance et de contrôle des risques. Et par performance, on entend pour un site le contrôle de sa capacité, le contrôle de l'injectivité et le contrôle du confinement. Donc, fort de ça, les objectifs du dispositif de monitoring seront essentiellement d'optimiser cette performance, et j'en ai énoncé les trois critères principaux, et de contrôler les risques associés. Donc, plus précisément, il s'agira de contrôler l'opération d'injection, de vérifier le devenir du nuage de CO2 et les effets de l'injection, notamment en termes d'augmentation de la pression. Il s'agira de caler les modèles prédictifs sur les observations, de façon à pouvoir effectivement anticiper un petit peu le comportement du stockage et finalement il s'agira de contrôler la qualité du confinement. Donc prenons le premier objectif, le contrôle de l'opération d'injection. C'est essentiellement ici, il s'agit de maximiser le débit de CO2 injecté, et évidemment ça a un impact sur les coûts, sans endommager les barrières. Donc il s'agit de contrôler le mieux possible la pression d'injection pour éviter de fracturer la couverture par exemple et donc d'endommager le confinement. Il s'agit en même temps d'estimer la masse de CO2 injectée, puisqu'il faudra justifier à un moment donné de crédit carbone, donc de réduction d'émissions. De façon plus précise, les mesures du contrôle que l'on effectue sont évidemment une caractérisation de la composition du gaz injecté, puisqu'il faut remonter au CO2 et en soustrayant les contaminants éventuels, mesurer le débit, mesurer la pression en tête et fond de puits, là encore pour éviter la fracturation de la couverture notamment, mesurer la température. Et une des techniques que l'on teste à l'heure actuelle et qui semble relativement prometteuse, c'est la mesure de microsismicité induite, notamment pour détecter très rapidement les risques de fracturation de la couverture ou de réactivation de failles. La deuxième classe de monitoring, c'est le monitoring de vérification. Donc là, je voudrais préciser un peu quel est l'état de la réglementation au regard de la vérification de l'injection proprement dite. La réglementation, donc sous la forme de la directive CSC ou CCS en anglais, impose de comparer les prédictions effectuées par les modèles dynamiques avec des résultats d'observation sur deux points. En gros, la carte de saturation en CO2 dans le réservoir et le champ de pression en 3D. Et il s'agit de vérifier qu'il y a un bon accord entre prédiction et observation. Et s'il y a un désaccord qui n'est pas acceptable, il s'agit de caler les modèles, de retravailler les modèles pour arriver à une prédiction correcte. Et là, je voudrais donner un petit exemple de simulation d'une injection de CO2 dans un réservoir. Un exemple relativement synthétique mais représentatif du sud de la mer du Nord, et vous avez sur la gauche la carte du CO2, du CO2 libre, et à droite la carte de pression. Donc quand on démarre l'injection, on peut voir qu'on a injecté très très peu, mais on a déjà une augmentation de pression qui s'est propagée relativement loin de l'injecteur. Donc ce sont vraiment deux répartitions spatiales extrêmement différentes qu'il s'agit de contrôler. Là, on est à 10 années d'injection, on a injecté 10 millions de tonnes par an. On continue d'injecter 20 années, 30, 40, 50, et on arrête l'injection. À ce moment-là, il y a une relaxation de la pression, et la plume continue à se déplacer dans la zone de plus fort pendage. Donc le type de monitoring de vérification que l'on met en œuvre pour effectuer ce type de suivi de la plume de CO2, du nuage de CO2 ou de la pression, ce sont toute une batterie de mesures de géophysique auxquelles il faut, parmi lesquelles il faut mentionner la sismique, les mesures de gravimétrie, l'électromagnétisme, la déformation de surface. On utilise aussi des traceurs et Alain a mentionné Sleipner, on a fait des mesures de gravimétrie en complément de la sismique à Sleipner. Il y a aussi de nombreuses mesures de puits qui peuvent être déployées, pour peu évidemment qu'on ait un puits de monitoring de disponible. Ce sont des mesures directes de saturation en CO2, donc c'est la quantité de CO2 dans les ports. On utilise des mesures, des techniques nucléaires, des techniques électriques. On mesure évidemment la pression en fond de puits, dans le réservoir, à différents niveaux. La température, on échantillonne les fluides dans les analyses et on analyse aussi la déformation localement dans les puits pour voir les risques de fracturation. Je passerai rapidement sur cette image puisque Alain l'a détaillée, mais en gros, il est clair que l'analyse de la sismique qui montrait des réflexions pas forcément attendues si le réservoir avait été homogène a permis de raffiner, comme vous pouvez le voir sur la droite, le modèle de réservoir pour une bien meilleure quantification des mécanismes de piégeage et de leur cinétique respective. Alain a aussi mentionné le site de Ketzin. Là, je voudrais simplement montrer une mesure de saturation dans un puits par des techniques de diagraphie qui consistent à mesurer la section efficace de capture des neutrons, en fait, qui est principalement une indication d'eau et d'eau salée. Donc par différence, on estime la quantité de CO2 présente dans les pores. Là, on voit que l'on atteint dans le sable où est injecté le CO2. Au niveau du puits de contrôle, une saturation de 60%. Et ça, évidemment, ce sont des informations très importantes pour caler les modèles prédictifs. Je voudrais insister aussi sur la complémentarité des mesures de monitoring. Là, j'ai trois types de mesures qui sont classiquement utilisées. Une mesure de résistivité, une mesure de vitesse de propagation d'ondes acoustiques et une mesure de densité. En fait, la densité est effectué par des techniques nucléaires et toutes les techniques nucléaires ont les mêmes caractéristiques au regard de la sensibilité. Comme vous pouvez le voir, la vitesse de propagation d'ondes acoustiques ne permet pas bien de différencier des saturations relativement élevées en CO2, alors que la résistivité, elle, est très performante dans cette gamme de saturation. Par contre, la densité, elle, a une sensibilité relativement constante en fonction de la saturation. Maintenant, je voudrais passer à la question du confinement, qui est évidemment critique. Et là, l'état de la réglementation, en fait, est le suivant. La directive CCS est focalisée sur l'implémentation et la sécurité des sites de stockage. D'abord, nous verrons qu'il y a une directive complémentaire qui vise à la quantification, qui est sur la quantification. La directive CCS impose de détecter toute irrégularité et toute fuite en dehors du complexe de stockage, que je préciserai tout à l'heure. Et il y a aussi une requête sur une obligation quant à la caractérisation des impacts potentiels. La demande de permis de stockage doit inclure un plan de monitoring qui permet de détecter tout effet indésirable sur l'environnement, les populations ou l'utilisation de la biosphère. Quand on regarde la réglementation aux États-Unis, elle est beaucoup plus limitée et elle est focalisée sur le contrôle de l'intégrité des puits pour l'instant, enfin en tous les cas pour ce qui est de la réglementation qui vient de sortir, enfin qui est sortie l'année dernière de l'Agence de protection de l'environnement. Elle impose, donc elle est focalisée sur l'intégrité des puits et impose des mesures correctives sur les puits avant injection et impose ensuite un certain nombre de mesures de caractérisation comme la pression d'injection, la mesure du débit, du volume, la pression dans les annulaires, etc. Et l'idée là, c'est vraiment de contrôler l'intégrité des puits et c'est complété par un contrôle annuel d'intégrité mécanique du puits d'injection. Mais là encore, le plan de monitoring doit être conçu pour détecter tout effet indésirable sur l'environnement. Alors le contrôle du confinement m'amène à discuter très rapidement de la notion de complexe de stockage telle qu'il figure dans la réglementation européenne. On injecte le CO2 dans une formation, évidemment, qu'on peut appeler réservoir, mais le CO2 a quand même la possibilité de migrer dans ce que la réglementation européenne appelle le complexe de stockage. Et en gros, le complexe de stockage définit simplement la zone où le CO2 peut aller sans qu'il endommage ou sans qu'il mette en péril une des ressources naturelles ou les populations ou l'environnement. Donc le complexe de stockage peut s'étendre au-delà de la zone où on injecte le CO2. Maintenant, contrôler le confinement dans ce complexe de stockage va demander en fait quatre tâches, va imposer quatre tâches. La première est le contrôle de l'intégrité des barrières. La deuxième est la détection des fuites. C'est imposé par la réglementation CCS et par la réglementation ETS, sur laquelle je reviendrai. Troisième tâche, la détection et l'évaluation de l'impact d'une fuite sur une cible potentielle. Et quatrième point, la quantification des fuites. Et là, c'est aussi une tâche assez difficile. Premier point, le contrôle de l'intégrité des barrières. Donc là, il s'agit de vérifier que les barrières géologiques, par exemple pour ce qui est de la géologie, tiennent bien la surpression qui suit l'injection dans le réservoir. Il y a un certain nombre de mesures que l'on effectue à cet effet. Là encore, j'ai mentionné la microsismicité. On regarde aussi tout ce qui est des déformations au niveau de la surface ou du puits. On fait des mesures d'interférence de pression, notamment en positionnant des capteurs de pression de part et d'autre des barrières. Et on peut utiliser des traceurs à cet effet. Pour ce qui est du contrôle de l'intégrité des puits, là nous disposons de techniques particulières. Les questions auxquelles il faut répondre sont est-ce que j'ai une bonne qualité de cimentation, en gros, qui donne une bonne isolation hydraulique entre les différentes couches, et est-ce qu'elle est maintenue durant l'opération d'injection. Donc tout ça est effectué par des outils qui évaluent la qualité de la cimentation, et on s'intéresse aussi à l'intégrité du cuvelage qui risque d'être corrodé dans un environnement acide. Je passe sur les outils que l'on utilise, qui viennent essentiellement, là encore, de l'industrie pétrolière. Le deuxième point, c'est la détection des fuites. La détection des fuites, là j'ai pris l'exemple de la surface, se fait en utilisant là aussi toute une panoplie de techniques de mesure qui vont de mesures ponctuelles de flux de gaz de sol à des tours atmosphériques qui, effectivement, suivant la technologie utilisée et suivant son déploiement, vont être sensibles ou alors à une fuite locale, et petite, ou alors à une fuite beaucoup plus importante, mais mesurant cette fois un impact global. La détection et l'évaluation de l'impact d'une fuite maintenant, il s'agit essentiellement de contrôler le risque de contaminer des aquifères, d'avoir une concentration dans l'air trop importante ou de contaminer, d'acidifier les sols. Donc là, il y a un certain nombre de critères d'impact que l'on doit vérifier, acidification de l'eau, dissolution de métaux lourds avec possibilité de déplacer ces métaux lourds vers des aquifères d'eau potable, intrusion d'eau salée, etc. Donc là aussi, on utilise un certain nombre de techniques de monitoring qui sont par ailleurs tout à fait standards dans l'industrie de l'eau. Concernant la concentration dans l'air, la concentration normale de CO2 est de 0,04% ou à peu près, et les effets irréversibles sur les organismes humains arrivent à partir de 5%. Donc il s'agit de monitorer essentiellement le risque d'accumulation de CO2 dans des endroits confinés pour éviter de mettre en danger les populations. La quantification du CO2 stocké maintenant, là je voudrais insister sur le fait que cette tâche est absolument obligatoire pour pouvoir justifier de crédit carbone. Et il y a en gros deux directives qui s'en occupent. La directive CCS donc, définit la notion de fuite et oblige l'opérateur à restaurer l'intégrité du stockage s'il y a une fuite. La directive ETS impose la quantification du CO2 et de l'incertitude associée pour rendre à l'autorité compétente des allocations d'unités d'émission. Et ça sera imposé à partir de 2012 pour bénéficier du régime ETS. Donc les standards de monitoring et de documentation sont en cours de développement. Mais la méthodologie n'est pas, je dirais, aussi mûre que la réglementation sur ce point-là. Ça imposera effectivement de travailler toute une chaîne de mesures qui va de la détection à la localisation de la fuite, à la quantification de la fuite, incluant la prise de lignes de base pour caractériser le bruit de fond qui varie considérablement et qui peut même être induit par des opérations tout à fait humaines. La méthodologie donc, doit être implémentée par l'opérateur et dans un premier temps, elle risque d'être validée par une commission de conseillers scientifiques au niveau européen. Donc, comme je le disais précédemment, il y a des enjeux de faisabilité importants. Tout ça sera implémenté avec le maximum d'efficacité possible et donc ce que l'on souhaitera faire, là encore, comme dans l'industrie pétrolière, c'est contrôler toutes les opérations en temps réel. En distribuant effectivement différentes tâches à différents capteurs sur un site donné. Donc là, c'est ni plus ni moins que les capteurs auxquels j'ai fait référence. Ces capteurs sont interfacés avec des systèmes d'acquisition qui permettent d'acquérir des mesures ou des données diverses et variées. Ensuite, ces données sont envoyées à des centres de supervision et aux systèmes d'acquisition pour stockage. Et il peut même y avoir en fait ensuite envoi à un centre de support des opérations décentralisées pour intervention des experts et contrôle des opérations d'injection. Donc tout ce type de monitoring temps réel est là encore tout à fait classique dans l'industrie pétrolière ou dans l'industrie de stockage de gaz naturel et il va être généralisé aussi à l'industrie du stockage géologique du CO2. Donc en conclusion, je voudrais peut-être insister sur les difficultés qui se posent à nous, comme à la fois universitaires, institutionnels ou industriels. Il s'agit effectivement d'avoir une approche tout à fait globale à la question du monitoring des sites, du contrôle des sites, placer les capteurs de façon optimale, vérifier la faisabilité des mesures pour remplir les objectifs de monitoring. Et ensuite, intégrer toutes ces mesures qui sont basées sur différents principes physiques, qui ont différentes caractéristiques en termes de résolution spatiale, dans le cadre d'un modèle d'interprétation unique, puisqu'il s'agit effectivement de les expliquer par un modèle unique. Le troisième point est un point critique, c'est à développer une méthodologie de détection et de quantification des fuites pour contrôler la sécurité du site et comptabiliser le CO2 stocké. Encore une fois, il faut quantifier les fuites et leur incertitude, et tout ça devra être fait en temps réel. Merci.
J'aimerais quand même reparler un petit peu du problème de temps et de la durée. On est dans un contexte où, à très long terme, les teneurs de CO2 dans l'atmosphère diminueront. On est également dans un contexte où, si l'on considère la durée d'exploitation des combustibles fossiles, en y incluant le charbon, on aura à faire face à ce problème sur une durée, on va dire, de 1 à 3 siècles, selon que l'on adopte des données différentes sur les réserves ultimes de charbon. De toute façon, quand bien même, en fait, il y aurait encore du charbon, on peut également penser que le tandem nucléaire plus renouvelable fournira d'autres schémas globaux à un horizon, lui aussi, de quelques siècles, voire peut-être plus rapidement. Donc en fait, on est amené à résoudre un problème qui devrait pouvoir se compter, on va dire, de 300 à 1000 ans. Et dans ces 300 à 1000 ans, il faut que l'on se préoccupe de confinement et on assure que le taux de migration, c'est-à-dire ce dont nous parlait Laurent Jam tout à l'heure sur le complexe de stockage, ce taux de migration hors du réservoir, sera inférieur à 0,1% par an. Alors ça, c'est un objectif d'efficacité, hein, en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que chaque site de stockage serait autorisé à fuir de 0,1% par an. Certains ne fuiront pas du tout, un certain nombre pourront le faire un peu. L'important est d'évaluer ce que constituerait ce type de comportement en regardant les impacts locaux et en étant capable d'extrapoler sur les impacts, le comportement à long terme. Mais j'insiste quand même, on n'est pas du tout dans la même constante de temps que celle qui était évoquée tout à l'heure, comme par exemple à propos des stockages de déchets nucléaires. Deuxième point que j'aimerais rappeler, c'est que Alain Bonneville a présenté ces choses-là. On va pouvoir stocker dans des réservoirs d'hydrocarbures déplétés, enfin épuisés, ou en voie d'épuisement si on fait de la récupération assistée en même temps, dans des charbons inexploitables, je ne dis pas inexploités, mais inexploitables. Donc c'est un débat en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'un charbon inexploitable, jusqu'à quelle profondeur voudra-t-on aller plus tard. Donc des charbons dont on est sûr qu'on ne les exploitera jamais. Et puis enfin, les aquifères. Alors vous voyez que les aquifères, bon, on a, disons, un potentiel absolument considérable. On avait à peu près les mêmes ordres de grandeur, voici 15 ans, quand on commençait à travailler sur ces fers-là. Il est clair quand même que les incertitudes sur ces affaires-là sont encore trop grandes et que donc ça nécessite beaucoup d'efforts pour affiner ces précisions dans un contexte qu'il est absolument nécessaire de développer les connaissances géologiques sur le sous-sol, parce que autant ces milieux-là et ceux-là ont été très bien étudiés puisqu'il y avait en fait une vertu économique à les étudier, sur ces affaires-là, on a quand même déployé très peu d'efforts. Ça veut dire que pour les problèmes de sécurité qui sont cruciaux, je pense que les problèmes sont assez différents. Ici, on est vraiment dans des domaines déjà fort bien couverts par les pratiques de l'industrie pétrolière et gazière. Bon, là, je n'ai pas prévu d'en parler, mais s'il y a des questions, je reviendrai là-dessus. Et là, on est quand même dans une affaire un petit peu différente. Alors, autre point en préambule qu'il est important de rappeler, c'est finalement quand on injecte du CO2 dans le sous-sol, dans un aquifère profond, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce schéma est extrêmement classique, à peu près tout le monde l'utilise. Bon, je l'ai extrait d'un endroit, mais on le trouve à peu près partout. Au début, on va chercher à privilégier ce que les géologues appellent le confinement structural ou stratigraphique. Alors, c'est un subtil distinguo entre géologues. Stratigraphique, ça veut dire qu'on va injecter dans une couche, et en fait, l'épaisseur de cette couche, dans les variations latérales, va varier, et donc il va y avoir un confinement qui va empêcher la migration du CO2. Par contre, structural, eh bien, on a des structures qui ferment complètement les structures, et le CO2 supercritique, une fois injecté, mécaniquement, physiquement, ne peut pas bouger. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. On va déjà essayer quand même de choisir ces affaires-là, de telle sorte qu'effectivement, on se mette dans des conditions au départ favorables. Cela dit, on voit également l'idée qu'on peut stocker dans des aquifères non confinés. C'est-à-dire la bulle de CO2 supercritique, si on peut employer cette image, parce que vous avez vu sur Sleipner, il y a des digitations, ce n'est pas vraiment une bulle, enfin parlons de bulle, c'est un peu à la mode. Donc le volume de CO2 supercritique dans un réservoir non confiné va d'abord se mettre dans les pores. Il rentre en force dans les pores. Et effectivement, quand vous l'avez forcé à rentrer là-dedans, même si après vous essayez de l'en faire sortir, c'est une opération extrêmement difficile. Pomper, extraire une substance, quelle qu'elle soit, dans un horizon poreux profond, eh bien, il faut fournir de l'énergie pour le faire sortir. C'est assez compliqué. Donc cette affaire-là est aussi extrêmement intéressante. Ensuite, et ça c'est certainement le mécanisme le plus rapide et le plus efficace, et Alain Bolville a donné les modélisations sur Sleipner, on l'a fait sur des tas d'autres endroits. Le CO2, il a une propriété sympathique, c'est que quand il se dissout dans l'eau, il s'ionise. Et donc on a des ions, et les ions, ils ne bougeront plus, sauf si la saumure elle-même bouge. Donc ce mécanisme-là, c'est certainement ce sur lequel, alors on le montre sur l'exemple de Sleipner, mais on a pu le montrer sur Wyburn, etc. En fait, c'est un mécanisme extrêmement efficace. Et enfin, une fois que les ions sont en solution, on peut avoir des réactions avec les minéraux encaissants, et donc là, on fait des carbonates de calcium, de magnésium et de fer ferreux. Enfin bon, ça, c'est le stockage ultime. Enfin, on a montré maintenant que cette affaire-là, vraisemblablement, je parle dans les aquifères classiques. Je ne parle pas d'aquifères à minéralogie particulière, mais dans les aquifères classiques, c'est certainement moins de 20% de ce que l'on peut espérer en termes de capacité de stockage. Donc on a des situations un petit peu différentes selon qu'on a des aquifères non confinés, on va surtout s'occuper de ça, ou c'est des aquifères confinés, on a en plus les affaires liées à la géométrie du système. Donc notre problématique, bon, il est clair, tout le monde l'aura compris, il est indispensable de maîtriser la sécurité. Donc on va établir des critères de sécurité. En fait, ce sont des exigences. C'est aussi en filigrane dans l'exposé de Laurent que ces exigences vont garantir que l'impact sur les personnes, les biens et l'environnement est proche de zéro, mais à court, moyen ou long terme. Encore une fois, le long terme, c'est dire plus d'un millier d'années. Parce qu'après, il faut comprendre que quand se mettent en place ces mécanismes-là, le moteur qui pourrait faire bouger le CO2, il s'affadit complètement. Si vous n'avez plus de différence de pression, en fait, c'est physique, hein, plus rien ne forcera le CO2 à bouger. Donc en fait, ce que l'on constate, c'est que plus le temps s'écoule, eh bien plus les risques de migration diminuent. Néanmoins, il faut quand même qu'on soit capable, finalement, de montrer que ceci est respecté. Alors le problème, si vous voulez, c'est que là, on hérite d'un réacteur en sous-sol qui est construit, qui nous est donné. Alors c'est très bien parce qu'il n'y a pas à le fabriquer, c'est très économique, mais quand même, il est également très difficile de le connaître. Il y a des phénomènes multiples, on en a une connaissance incomplète, parce que si on connaît bien les réservoirs pétroliers et gaziers, les grands aquifères des bassins sédimentaires, bon, il y a bien quelques connaissances grâce à la géothermie, mais on connaît quand même assez peu de choses. Et effectivement, chacun des sites, en fait, on ne peut pas strictement et complètement transposer d'un site à l'autre les leçons que l'on aura apprises. Alors, le vrai problème, en fonction du temps, donc ça, c'est bien sûr, ça n'a rien de sérieux en termes d'échelle. Hein. En gros, on peut dire, quand on va injecter, si on veut injecter à des vitesses décentes, il faut quand même appuyer. Il faut bien appuyer pour que aussi le CO2 rentre et occupe le maximum d'espace. Donc on va avoir effectivement des montées de pression dans le réservoir cible. Et c'est une période assez critique. Encore une fois, je pense l'illustrer, ces choses-là sont vraiment bien maîtrisées. Dans des filières industrielles complètes, mais on va distinguer plusieurs phases. Alors là, c'est un peu les mêmes phases que Laurent imaginait. La préparation du site, après, donc, on va avoir l'injection, fermeture, abandon, et après, ce qui se passe en post-fermeture. Les surveillances et contrôles, j'y reviendrai pas, ça a été très complètement présenté tout à l'heure par Laurent Jam, mais on va avoir effectivement ces séquences. Et on parlait aussi un peu des responsabilités. Bon, là, c'est clair, c'est l'opérateur de stockage. Seulement, après, en fait, ça sera vraisemblablement quelqu'un d'autre, une autorité publique. Et la question qu'on doit pouvoir se poser, c'est y a-t-il des risques de réplique, de rebond, de reprise, de remontée des risques? Et donc pour cela, on a essayé, dans plusieurs instituts de recherche, dont le BRGM, mais pas mal d'autres, parce que c'est une, comment dire, c'est une question qui est jugée très importante depuis vraiment un certain temps déjà. Que pourra-t-il se passer quand on sera sorti de cette période industrielle où on peut penser, et on peut le penser à juste titre, qu'on maîtrise bien les choses? Donc le BRGM, je vous présente quelques résultats assez synthétiques, s'était forcé de réaliser un certain nombre de scénarios normaux, aléatoires, pour voir quels sont les risques auxquels on pourrait être confronté. Donc le premier point, c'est les événements qui sont liés à la conception et à la conduite des opérations. Donc on va injecter, et en fait, que se passerait-il si on a une fuite par un puits en exploitation, ou si une surpression locale au niveau du puits d'injection pouvait conduire en fait à mettre en péril la qualité de l'intégrité de la couverture. Alors au passage, quand même, on va choisir des endroits où on a plusieurs barrières. Ce concept multibarrière est quand même classique, mais assez efficace. Donc les barrières, c'est des zones argileuses, des zones de sel, des zones de gypse, qui forment des couvertures vraiment très intéressantes. Eh bien là, Laurent vous a montré qu'on va monitorer de façon extraordinairement détaillée tout ce qui se passe pendant l'injection. Et si d'aventure on s'écartait du scénario normal, à ce moment-là, on a des actions correctives qui sont des pratiques courantes de l'industrie pétrolière et gazière pour intervenir sur les points de faiblesse. Donc, on pense quand même que les événements qui sont pendant la conduite des opérations, en fait, correspondent à des savoir-faire. Donc, il s'agira de raffiner, d'adapter un tout petit peu, mais des savoir-faire qui existent d'ores et déjà. Ensuite, nous avons des événements qui sont liés au dimensionnement des opérations par rapport à la réponse du système géologique. La chose importante, et la modélisation de BGS le montrait bien, on induit une surpressurisation du réservoir à l'aisselle régionale. Si cela se produisait, alors on pourrait imaginer, régionalement, à travers cette couverture, des migrations. Bon, alors, là aussi, il faut quand même, disons, maintenir les choses à leur juste valeur. Il y a eu une étude extrêmement intéressante qui a été faite aux États-Unis en 2006, où on injectait des traceurs. En fait, c'était des perfluorocarbones. On avait des capteurs passifs qui sont capables de détecter des femtogrammes de surface. On accumule, on mesure. Donc, même dans cette opération, qui était une opération de récupération assistée, où en fait, je dirais, les débits d'injection étaient importants, les auteurs de cette étude ont mesuré des taux de fuite inférieurs à 0,008 % de ce qui était injecté par an. Donc en fait, on est même dans des conditions qui, là, étaient foncièrement défavorables. Ces notions de diffusion globale sont quand même assez faibles. Ensuite, le dépassement de l'extension latérale prévue, c'est-à-dire que bon, ça se met à migrer. Donc ça aussi, grâce aux technologies de monitoring, évidemment, on fera tous les efforts nécessaires pour s'en apercevoir. Et à ce moment-là, bon, donc la surveillance, j'y reviens pas, elle a été parfaitement décrite, mais on a des actions correctives qui peuvent être la décompression par pompage du réservoir principal. Encore une fois, on risque d'avoir une fraction extrêmement faible des lieux de stockage qui poseront ces problèmes-là. Et à ce moment-là, on pense déjà aux actions correctives. Ensuite, on a des événements qui sont liés à la caractérisation du site. Donc, on en a identifié 5 grands types. Donc, une fuite par défaut d'étanchéité de la couverture. Donc, ça veut dire que la couverture, comme la connaissance géologique, peut ne pas être suffisamment précise régionalement parlant. Là où on s'est positionné, c'est parfait. Un petit peu plus loin, c'est moins bien. Donc là aussi, on s'en apercevra. Bon, si la migration se poursuit, on pourrait avoir des fuites par des failles existantes, mais des failles passives mal connues. On pourrait aussi imaginer, d'ailleurs, que les propriétés chimiques du CO2 pourraient avoir un effet sur les minéraux tapissant les failles et donc jouer sur leurs propriétés de scellement, de fermeture. Donc on a ce scénario-là. Et le problème, c'est qu'on va stocker dans des bassins sédimentaires. Certains d'entre eux comportent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de forages. Et là encore, s'il y a migration, on pourrait arriver sur un puits abandonné très ancien, en mauvais état, et favoriser les fuites ainsi. Donc là aussi, les actions correctives, c'est des interventions sur l'aquifère. Donc on va pomper dans l'aquifère sous-jacent. Là aussi, il faut voir que les extensions qui risquent d'y avoir par rapport en fait, à un aquifère sont très ponctuelles et très localisées. On peut avoir des interventions sur la zone de faille. Et puis bien sûr, on pourra avoir des actions de réparation sur les puits abandonnés. Enfin, on a des événements liés à la possibilité d'effets secondaires. Ça, c'est certainement le scénario qui nous alerte le plus. C'est-à-dire, si vous voulez, on a des fuites, le CO2 pourrait, on a des migrations. Le CO2 pourrait s'accumuler dans un réservoir secondaire et ici, en fait, créer une poche de gaz. On pourrait avoir des modifications des écoulements verticaux et en fait, si on est dans un aquifère non confiné, là aussi, avoir des remontées d'eau. Là encore, les actions correctives, c'est les interventions sur l'aquifère de surface, compression, décompression, les forages de production d'eau s'il y a des remontées d'eau et traitement de cette eau. Dernier point, imaginons qu'on se place dans un scénario de temps de plusieurs siècles, 800 ans, il pourrait se perdre la mémoire du fait qu'un stockage de CO2 a eu lieu et par inadvertance. un puits serait foré dans une zone où on a du CO2. Donc un forage ultérieur, donc là, c'est les pratiques courantes quand on fait un puits et qu'il y a une venue de gaz, c'est des choses qui se contrôlent parfaitement bien. Alors la fracturation induite par un séisme naturel, on a un exemple qui est intéressant, à Nagaoka, là, le site de stockage japonais dont parlait Alain Bonneville, il y a eu à 20 km du lieu de stockage, un événement d'une intensité 6.8, et en fait, il ne s'est absolument rien passé. Donc c'est un premier élément. On fait d'autres modélisations sur des affaires de ce genre, mais si là aussi il y avait en fait endommagement, eh bien on se retournerait au sérieux 6 pour la réparation. Pour terminer, je pense qu'on a une démarche qui nous conduit vers une maîtrise des risques. On a une expérience industrielle qui est extrêmement précieuse. On a des points très importants sur le choix du site. Là aussi, les critères de choix vous ont été présentés par Laurent. On mène une analyse rigoureuse des risques et en fait, vont s'instaurer des bonnes pratiques de telle sorte qu'on ait une conduite des opérations et notamment des contrôles de la pression d'injection. Le monitoring, bien sûr, sera extrêmement important. Et si les choses ne se passaient pas comme prévu, les actions correctives sont, pour une bonne part, soit déjà disponible, soit en cours de mise au point. Donc en fait, il y a urgence quand même. Il faut valider une analyse de risque et établir des critères de sécurité. Il faut que ceci avance avec la mise en place de ces réglementations nationales, ces réglementations européennes. La modélisation du comportement du CO2, c'est un enjeu extrêmement important. Moi, j'ajoute très volontiers qu'on a un enjeu extrêmement fort sur la connaissance des formations géologiques profondes, parce qu'encore une fois, à part quelques spots comme cela, ce n'est pas uniforme du tout. Les impacts environnementaux, c'est un truc, quelque chose d'extrêmement important. Bon, nous, on est extrêmement sensibles au problème de la préservation des ressources en eau. Et enfin, sur ce point-là, bon, je n'ai absolument rien à ajouter à ce qui vous a été présenté par le... disons précédemment. Donc en fait, il me semble que ce problème, la marche vers un contrôle en fait des risques et des règles de sécurité est en fait un jeu à plusieurs pôles entre ces différentes composantes. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie.
Mon propos sera essentiellement illustratif pour essayer de vous montrer ce que l'on cherche à faire dans le sud-ouest de la France. Ce premier projet de démonstration de captage et de stockage géologique que l'on fait entre Lac et Rousse, hein, donc deux sites distants de 30 km. Et j'espère donc que mon propos sera complémentaire de ce qui a été présenté par les autres intervenants. Donc j'essaierai d'insister effectivement sur la spécificité de ce genre d'opération. Et vous montrer en même temps la difficulté, la complexité et la manière dont on arrive à maîtriser l'ensemble des opérations jusqu'à présent. Donc je vais rentrer directement dans la description de ce projet lui-même, hein, donc, que Total, en tant qu'opérateur pétrolier, cherche à réaliser dans le sud-ouest de la France. Entre deux sites industriels qu'il opère depuis 50 ans, en ce qui concerne l'usine de Lac, il y a une trentaine d'années, en ce qui concerne le site de Rousse. Donc ce sont des installations existantes, hein, sur lesquelles Total produisait du gaz acide, hein, qui contenait d'ailleurs beaucoup d'H2S et de CO2, depuis la fin des années 50. Et donc il y a le gisement de Lac, dont vous avez probablement entendu parler, qui est en phase de déclin, dont l'arrêt est programmé en 2013, on est parti de presque 700 bars, on est aujourd'hui à quelques bars de pression, donc c'est un gisement qui est très fortement déplété, et donc il y a un grand complexe de traitement de gaz acide et un complexe pétrochimique qui a été associé donc à la production de ce gisement de Lac, une usine donc qui a un peu plus de 50 ans, et donc qui a besoin d'électricité, de vapeur pour faire fonctionner tous ces procédés de traitement. Et donc on a décidé d'utiliser dans cette centrale de production de vapeur et d'électricité, de capter le CO2 sur une des chaudières. Il y en a 5 au total. La production d'énergie associée à cette chaudière peut représenter presque 30% de l'énergie nécessaire au complexe gazier et pétrochimique. Et donc on a décidé donc de capter le CO2 volontairement sur une de ces chaudières. Donc, c'est une chaudière qui fait 30 MW. Donc on est déjà dans une échelle industrielle, mais encore dans une échelle un facteur 10 disons par rapport aux grandes échelles industrielles de production d'énergie sur lesquelles on cherchera à capter du CO2. Et donc ce CO2 capté par oxycombustion, je reviendrai après, c'est la technologie qui a été choisie dans notre cas, est ensuite ce CO2 donc, qui sort à pression atmosphérique des cheminées, est comprimé à 25 bars, transporté sur une trentaine de kilomètres, et on cherche ensuite à l'injecter dans un puits existant qui a été foré à la fin des années 60, dans une structure géologique qui est un gisement de gaz déplété, dont le nom est Rousse, qui est très profond, comme le gisement de lac, 4500 mètres de profondeur, et qui a donc produit du gaz depuis le début des années 70. C'est un pilote de démonstration industrielle qui est complètement porté par la recherche et développement, donc il n'y a pas de finalité économique ou de schéma économique dans ce projet. C'est un investissement, c'est un effort de l'ordre de 100 millions d'euros, avec deux grandes parties. Effectivement, pour nous, l'intérêt de l'oxycombustion à l'échelle industrielle pour la production de vapeur massive dont on pourrait avoir besoin dans des applications de production d'huile extra-lourde, notamment au Canada ou au Venezuela, où on peut avoir des très gros besoins de vapeur à injecter dans le sous-sol pour fluidifier l'huile à extraire. Et donc cette technologie de l'oxycombustion, on a décidé de la tester à une échelle industrielle pour réussir à la promouvoir, à la développer et s'assurer que l'on aurait à l'horizon 2015 une technologie robuste sur plusieurs centaines de mégawatts de puissance, avec des cibles que l'on visait, c'était le propos d'Éric Fabre, tous les progrès qui sont réalisés dans le captage visent à améliorer l'efficacité énergétique du captage et améliorer les coûts à la tonne de CO2 captée. Et donc ce sont ces cibles que l'on visait, sur lesquelles on a fait des études technico-économiques. Et au passage, on a aussi essayé de vérifier la faisabilité de la conversion en oxycombustion d'une chaudière existante. Ensuite, sur la partie stockage, transport et stockage, les objectifs étaient un peu différents. Je vous montrerai que l'on fait ce pilote dans des conditions très conservatives, mais pour nous, l'intérêt d'un cas réel, c'était d'essayer d'appliquer l'ensemble de la chaîne méthodologique de qualification et d'un site de stockage et de surveillance pour pouvoir effectivement tester ces méthodologies, tester ces modèles, tester la robustesse de toutes les méthodologies que l'on voit développer dans la littérature, dans les grands projets européens, et voir si c'est réellement applicable sur des sites réels qui ont leurs incertitudes et leur contexte géologique différent. Et puis, effectivement, au passage, on avait l'opportunité, par la proximité des sites de captage et de stockage, de tester finalement la faisabilité de l'ensemble d'une chaîne. Ce projet de démonstration, on a souhaité évidemment qu'il soit complémentaire d'autres projets. Vous voyez, donc je ne vais pas reprendre ce qui a été présenté par Alain Bonneville. Il y a un certain nombre de projets qui sont en opération, avec ou sans captage, avec ou sans stockage. Ce qui est certain, c'est que ces projets de démonstration visent à démontrer la faisabilité de cette technologie dans des contextes, avec des sources de CO2 différentes, donc des qualités de CO2 qui vont être différentes, et puis dans des contextes géologiques qui vont être aussi très différents. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que malgré tout, malgré le grand nombre de projets annoncés, il n'y a pas encore énormément de réalisations concrètes, et donc ces projets de démonstration sont vitaux pour réellement tester la faisabilité de la technologie. Alors, si on part de l'usine de Lac, donc où l'on cherche à mettre en œuvre une oxycombustion, le principe qui a été brièvement décrit, c'est effectivement de remplacer l'air comme comburant par de l'oxygène. Et donc, si on est dans des conditions stoichiométriques, on brûle du gaz avec de l'oxygène, on n'a que de la vapeur d'eau et du CO2 en sortie des fumées. Donc ensuite, il suffit de déshydrater le CO2, de condenser l'eau, de refroidir ces fumées pour condenser l'eau, ensuite déshydrater, et on a un CO2 quasiment pur. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on n'utilise pas un oxygène pur, on utilise un oxygène, dans notre cas, entre 95 et 99,5% pour balayer différentes qualités d'oxygène possibles. Et donc, on a des gaz résiduels qui sont associés à l'oxygène, qui peuvent être l'azote, l'argon. Et puis, la combustion n'étant pas parfaite, on est toujours en excès de comburant, donc on aura aussi un excès d'oxygène dans ces fumées. Et donc, vous verrez qu'on a une composition qui, effectivement, n'est pas un CO2 pur, est un CO2 à plus de 90%. Et donc, ce sera très intéressant de s'intéresser à la propriété de ces gaz co-injectés. Dans l'usine, donc vous voyez une image ici de cette chaudière telle qu'elle était avant, puisqu'aujourd'hui, elle a été complètement modifiée. Vous aviez une cheminée qui envoyait le CO2 à l'atmosphère.
Et donc on a fait tout un travail de modification pour amener de l'oxygène aux brûleurs, changer des brûleurs qui sont réalisés par Air Liquide, et puis aussi installer tout un système de recirculation du CO2, puisqu'une fois qu'on a enlevé l'azote de l'air, ben on a un problème de flux thermique en fait dans cette chaudière. L'azote finalement qui ne participe pas à la combustion cherche à évacuer des calories, et donc en fait on fait recirculer le CO2 pour permettre d'avoir des flux thermiques acceptables dans cette chaudière. Vous voyez là quelques images, là encore pour illustrer le propos et pour montrer, je crois, aussi la complexité de ces opérations. On parle d'une chaudière de 30 MW que vous voyez ici, qui est une espèce de grand parallépipède qui fait une vingtaine de mètres de long. Dans le futur, on parlera de plusieurs centaines de mégawatts. Ici, on sera de l'ordre de 200 tonnes jour de CO2 captées, puis transportées, injectées. On sera sur plusieurs milliers dans des installations industrielles. Et on voit déjà donc la taille, par exemple, du compresseur de CO2 ou de la distillation cryogénique d'oxygène. Donc ce sont des opérations qui seront des grosses opérations industrielles lourdes, et donc qui ne pourront se faire qu'avec une anticipation importante et puis des moyens industriels adéquats. Là encore, quelques images. Vous voyez le site, je vous remontrerai le planning. On est en fin de construction de ces installations de captage, où on voit là à nouveau là maintenant le compresseur de CO2 qui est prêt à opérer, tout le système de déshydratation du CO2, que ce soit par condensation des fumées ou par déshydratation sur tamis moléculaire. Et l'objectif de ce genre de pilote de l'ordre de 30 MW, c'est d'arriver à valider la technologie à une échelle industrielle intermédiaire entre les futures grandes installations que l'on vise à l'horizon 2015 et les quelques essais pilotes qui ont été faits, qui sont plutôt de l'ordre du mégawatt. Sachant qu'effectivement, l'autre grande expérience mondiale d'oxycombustion, mais qui n'est pas associée à du stockage, c'est celle de Vattenfall, mais qui est faite sur du charbon et pas sur du gaz naturel. Donc maintenant, si on sort de l'usine de Lacq, donc vous voyez avec un CO2 en moyenne, puisque suivant la qualité d'oxygène, le pourcentage de CO2 peut varier, de l'ordre de 92%, avec un excès maximum d'oxygène, on essaye de minimiser l'excès de comburant pour optimiser au mieux la combustion, mais on peut avoir jusqu'à 4% d'oxygène, et puis de l'azote et de l'argon résiduel qui provient de l'air qui a été purifié pour produire de l'oxygène. Et donc ensuite, on a une pression, donc on est en phase gaz, on est à 27 bars au départ de l'usine de Lacq, on est en moyenne à 20 bars sur cette canalisation. On amène le CO2 jusqu'à un puits donc existant, Roussin, qui est à une trentaine de kilomètres, sur lequel il faut rajouter un dernier étage de compression pour pouvoir injecter le CO2 dans ce gisement déplété. Donc là, vous avez une image de la localisation des sites. Vous voyez ici ce puits Roussin, sur lequel le rig de forage était installé en février dernier, et puis un puits en production, un peu plus bas, mais qui produit une autre formation géologique, qui est Rousse 3. Et au passage, donc on a de l'ordre de 500 mètres entre ces deux puits, et c'est ces deux puits plus un troisième puits qui était sec, qui permet finalement, plus la sismique et tous les éléments dont je vais vous parler, qui sont les éléments qui nous ont permis d'avoir accès physiquement au réservoir, de remonter des carottes, de couverture au réservoir, et aussi donc évidemment d'avoir un contour plus ou moins certain de ce gisement de Rousse. Donc même si on est effectivement dans un réservoir déplété, donc un gisement finalement qui a démontré sa fiabilité, puisqu'il a stocké du gaz sur plusieurs dizaines de millions d'années à presque 480 bars, à 4500 mètres de profondeur. Même si effectivement l'industrie pétrolière a une expérience d'injection de gaz dans des formations géologiques ou d'injection de CO2, et qu'on peut s'appuyer largement sur ce savoir-faire, il faut quand même, même dans un gisement déplété et dans ce type d'opération, bien se rendre compte qu'on aura affaire à des études beaucoup plus spécifiques que ce qu'on a l'habitude de faire dans l'industrie. Notamment, il y aura une attention tout particulière à apporter à des données de sites dont on n'a pas l'habitude de se préoccuper dans l'industrie, comme les données de couverture ou la minéralogie précise du réservoir, qui sont des données beaucoup plus importantes dans les études d'intégrité du stockage. On aura aussi à faire, finalement, et j'essaierai de l'illustrer très rapidement, une analyse de défaillance de ce stockage de manière beaucoup plus rigoureuse que ce que l'on fait quand on injecte classiquement du gaz, et puis évidemment s'intéresser aux problèmes de surveillance, avoir une surveillance spécifique qui adresse ces scénarios de défaillance, s'intéresser aux enjeux de prédiction à long terme et aussi avoir une attention tout particulière au puits. Mais je pense que ça a déjà été largement expliqué. Et donc on a eu tout un programme d'inspection du puits très, très particulier. Je disais qu'effectivement les conditions étaient très conservatives pour ce pilote. Et c'est tout à fait normal, quand on fait un premier pilote, on ne va pas le faire dès le départ dans un contexte géologique très compliqué. On est ici, donc vous voyez une coupe ici du gisement, c'est un espèce de radeau dolomitique qui est noyé dans de l'argile, qui fait à peu près 2 km par 1 km et qui n'a été reconnu que par un seul puits. C'est un gisement qui a connu du CO2, hein, le gaz contenait 4% de CO2, donc, et on a eu, donc, puisque c'est un gisement déplété, on a toute l'expérience de la phase d'exploration et de production qui nous a donné accès à de très nombreuses informations, y compris évidemment les potentiels effets de la dépressurisation du réservoir sur la microsismicité induite, ou le fait d'avoir un gisement qui a contenu du CO2. On s'intéresse évidemment à la manière dont l'équilibre géochimique de ce gisement a pu se réaliser sur des millions d'années. Et puis une épaisseur de couverture très particulière de 2000 mètres d'épaisseur. Donc notre projet aujourd'hui est en fin de phase de construction, donc toutes ces installations, cette grosse infrastructure de captage, de transport, puisqu'il a fallu modifier des canalisations pour les adapter au transport, et puis la reprise du puits pour le stockage. Donc tout ça, aujourd'hui, on est en fin de construction pour démarrer une injection à l'été. L'administration ne nous a pas donné un chèque en blanc sur ce sujet. Donc dans sa sagesse, elle a conçu un schéma réglementaire dans lequel, en fait, on a une autorisation de stockage temporaire de 5 ans, 2 ans d'injection, 3 ans d'observation, durée pendant laquelle tout le système de suivi, de monitoring, de surveillance et toutes les études en parallèle sur le court et le long terme, et la révision des modèles permettra de passer dans une phase de stockage pérenne à l'issue des 5 ans, et on l'espère, donc toute l'expérience aussi de profiter à la méthodologie de stockage. On a parlé de l'idée de site de complexe de stockage, hein. Là encore, Rousse, dans une perspective de complexe de stockage, montre que on ne s'intéresse plus seulement au réservoir, mais on va s'intéresser beaucoup plus à la couverture et à tous les chemins potentiels, préférentiels de fuite. Et donc il va falloir inclure tout ça dans un modèle tridimensionnel que l'on a réalisé sur la base de toutes les informations sismiques que l'on peut avoir dans la région. Et c'est déjà une spécificité du stockage géologique, être capable en fait d'intégrer beaucoup plus de données dans un périmètre beaucoup plus large pour construire ce fameux géomodèle de complexe. Il a fallu s'intéresser aux aquifères de manière beaucoup plus détaillée. Là aussi, les pétroliers ne s'intéressent pas forcément énormément aux aquifères, mais là, dans un cas de stockage géologique, il faut évidemment avoir une cartographie bien meilleure et avoir une analyse, un suivi de tous ces aquifères. Et puis, vous voyez ce qui est dans le dossier réglementaire, et donc dans l'étude de danger qui a été soumise à l'administration, être capable de formaliser un certain nombre de scénarios de perte d'intégrité de ce stockage, avoir des études associées à chacun de ces scénarios. En l'occurrence, cette étude de danger a été tierce expertisée par le BRGM, donc il y a eu des allers-retours avec l'administration. Et ensuite, donc, on a mis en place un système de monitoring qui doit répondre à chacun de ces scénarios et donc être capable de vérifier que ces scénarios ne se produisent pas. Et donc l'essentiel du système de monitoring repose sur des sondes de fond, de pression, température, mais aussi d'écoute microsismique, et puis des capteurs microsismiques de surface qui sont dans des puits de surface à 200 mètres de profondeur, dans un rayon de 2 km autour du site de stockage. Donc ça, c'est la descente des capteurs, l'image d'un puits microsismique, donc une fois qu'il est installé. Aujourd'hui, il y a déjà un puits qui est en écoute, et puis 6 autres qui doivent être mis en place. Autre aspect très important, la mise en œuvre d'une ligne de référence des émissions de gaz du sol. Donc vous voyez là encore un suivi qui a été fait sur 35 points à la surface du gisement et aux alentours pour avoir une connaissance des mesures de gaz du sol. Pour terminer, je voulais essayer de montrer que ce pilote, donc effectivement, qui est dans des conditions très conservatives, qui a cependant nécessité la mise en œuvre, la construction d'un modèle très spécifique et d'une étude de danger très, très spécifique. On souhaite aussi qu'il puisse profiter à des équipes scientifiques, et il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont été lancées. Il y a des projets ANR qui s'appuient sur le pilote, hein, notamment un projet qui a étudié tout le processus de communication d'enquête publique qui est mené par le CIRED. On a tout un projet sur les fameux gaz annexes ou contaminants qui sont injectés pour bien connaître les conditions thermodynamiques et thermochimiques de ces mélanges d'eau saumure avec des gaz annexes. Et puis tout un programme sentinelle de surveillance. Et puis là aussi encore des actions de recherche en collaboration que l'on a démarrées, soit avec l'IFP, le BRGM, l'INPL ou l'IPGP essentiellement, pour effectivement s'intéresser sur un cas réel à la capacité que l'on a à faire des propriétés pétrophysiques, à définir des propriétés pétrophysiques de couverture qui soient fiables, à faire un monitoring géochimique qui ait un sens, à faire des modélisations géochimiques. Et donc tout ce programme aussi, on l'espère, profitera aussi bien au dossier réglementaire dans 5 ans qu'à l'amélioration de la connaissance sur ce sujet. Voilà, un dernier point pour conclure. Puisque c'est un point qui nous a demandé beaucoup plus d'efforts qu'on ne l'attendait, c'est, vous voyez ici, l'étendue depuis le démarrage du projet jusqu'à aujourd'hui, du nombre de réunions publiques, de rencontres avec les élus locaux, avec les parties prenantes, de portes ouvertes qu'il a fallu organiser pour effectivement rentrer dans un niveau de détail sur l'ensemble des études que l'on conduit, très important et bien plus important que ce que l'on attendait. Voilà.
Vous venez d'entendre Nicolas Aymard, il développait l'exemple de LAC, usine de captage de gaz exploitée aujourd'hui pour des essais de stockage de CO2 sous terre. Auparavant, vous avez pu entendre les interventions de Laurent James sur la surveillance des réservoirs et puis Christian Fouillac sur la sécurité des stockages. Ces interventions avaient lieu dans le cadre d'une séance de l'Académie des sciences en mai 2009, séance consacrée à la séquestration du CO2. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les 2 autres volets de cette séance. Elles sont en libre écoute et libre téléchargement sur notre site canalacademie.com. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.